Radio 3D.
La France a bien du mal à trouver une solution à ce problème.
À partir de vendredi prochain, les choses vont sûrement changer.
Attendez une minute là.
Bonjour à vous. Un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles, tous les premiers mercredis de chaque mois de 18h10 à 18h40 sur 3DFM. Un autre monde possible, c'est possible.
Moins 04 58 96 71 72 13 45 04 Deutsche Bank 22.
Eh bien, bonjour et bienvenue sur les ondes de 3DFM, où je suis heureuse de vous retrouver au micro avec Fernand à mes côtés. Bonjour Fernand.
Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne un peu plus de la moitié de la population, les femmes.
Peux-tu commencer par nous expliquer en quoi cela concerne ATTAC, Association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne?
Parce que si l'association se bat contre la finance, qui prône un modèle social profondément inégalitaire, riche contre pauvre, pays occidentaux contre le tiers-monde, colonisateurs contre colonisés, il faudrait pas qu'on oublie la première des inégalités dans nos démocraties, l'inégalité originelle, devrais-je dire, celle de nos modèles judéo-chrétiens qui placent la femme en position d'infériorité depuis qu'elle a croqué une certaine pomme. Avec un certain déterminisme, la femme ne serait pas l'égale de l'homme, elle lui serait par nature inférieure.
Beaucoup objecteront que différencier les sexes, ce qui fait l'homme de la femme, ne place pas l'un au-dessus de l'autre, si on peut dire. Mais sorti des références génétiques incontestables, les faits sont têtus. Tout ce qui est associé au féminin met la femme dans une position subalterne. Au travail, à la maison, dans les médias, dans l'imaginaire collectif, dans l'éducation des enfants, la femme se distinguerait de l'homme par une nature soit maternelle, reproduction, éducation des enfants, tolérance, soit de l'ordre de la séduction, beauté, attrait féminin, douceur.
Dans nos sociétés capitalistes, cela se traduit par une différence de salaire d'environ 20% inférieure pour les femmes. La surreprésentation des femmes dans les emplois précaires, à temps partiel ou avec un salaire d'appoint. La mise en vente du corps de la femme dans les magazines, la publicité, les médias en général. Et surtout, la part prépondérante de la femme dans la sphère privée, on va dire non économiquement rentable, qu'il s'agisse des tâches ménagères, de l'éducation des enfants ou du lien familial et social.
Et cette inégalité constatée serait donc le fruit d'une logique néolibérale ?
Il faudrait plutôt le replacer dans l'autre sens. Le néolibéralisme se nourrit des inégalités pour faire fructifier son capital. Après, qu'il s'agisse des femmes, des étrangers, des pays ex-pays colonisés, ou du dumping social, peu importe. Il est quelque part dans l'ordre des choses qu'il fasse ventre d'un historique patriarcal qu'il n'a pas inventé, certes, mais dont il peut consommer les avantages. Si on prend l'exemple du temps partiel, que l'on sait être un formidable outil de flexibilité pour le patronat, on constate qu'il concerne 31% des femmes salariées. Ça fait environ 6,7% pour les hommes, c'est quand même assez différent. Résultat, plus de 8 salariés sur 10 à temps partiel sont des femmes. Or, si ce temps partiel profite surtout à l'employeur, il est très hypocritement présenté comme du temps libéré pour la femme, lui permettant ainsi de vaquer à ses occupations ménagères et familiales. Il ne faudrait surtout pas que ça change.
Le produit femme, lui aussi, est très rentable. Il suffit de très peu de tissus pour inciter à la consommation et de très peu d'incitations pour faire consommer toute une palette de produits spécifiques, maquillage, crème anti-rides, fringues, conseils minceurs. À ce propos, c'est vrai qu'on pourrait te reprocher de ne pas être féminine. Ni maquillage, ni crème, des fringues babacool et même pas besoin de conseils minceurs.
Ouais, ça se voit pas à la radio, Mais quelque part, c'est assez violent d'être toujours amené à sa dimension féminine. Alors plus globalement, ça vaut aussi pour les hommes, Être toujours amené à une fonction sexée et nous met en perpétuel décalage entre ce que nous sommes et ce à quoi nous devrions ressembler. Pour les femmes, la violence est d'autant plus dure que l'image iconique est une aberration totale. Et éternellement jeune, lisse, plastique, sans hanches ni fesses, mais poitrinaire, surmontée d'un caractère et maternel, et sensuel, et travailleuse, tolérante, intelligente, qui aime faire la cuisine. Enfin, c'est ce qui est répété à l'envi dans la presse féminine et sur les sites dédiés. Comment être une bonne mère, une bonne épouse, être sexy, lui préparer des bons plats, s'entendre avec sa belle-mère? À moins d'être dur d'oreille, il y a vraiment peu de chances que ce décalage n'atteigne pas l'image de soi, donc celle qu'on se construit, et le regard que la société porte sur nous. Un décalage qui va pousser une majorité vers des palliatifs de consommation, plus ou moins compulsifs. Alors ça peut être une prothèse mammaire, ou alors de la boulimie.
Pour autant, la société évolue. Qu'il s'agisse des sciences humaines ou des mouvements féministes, les droits des femmes sont maintenant reconnus, depuis le droit de vote ou le droit des femmes à disposer de leur corps, jusqu'à la récente loi sur la parité dans les institutions. La société actuelle tendrait plutôt vers l'égalité.
Oui, oui, il y a eu des avancées indéniables. Hein. Les femmes sont émancipées et reconnues dans leurs droits. Elles peuvent voter, travailler, ouvrir un compte en banque à leur nom. Hein. Pour autant, je mettrais deux limites à ces avancées. Alors la première, c'est un constat historique. Hein. Ce que les femmes ont obtenu, elles le doivent qu'au combat qu'elles ont mené. Il ne faut pas s'attendre à des avancées sorties d'un quelconque chapeau. Hein. La deuxième limite, ça répond à la première. Les mouvements féministes actuels, quels qu'ils soient, subissent tous une campagne de critique acerbe ou de dénigrement, alors même que les mouvements contraires sont de plus en plus visibles et véhéments.
On le voit d'ailleurs plus globalement au traitement spécifique fait à tout mouvement qui défend l'égalité homme-femme. Les médias et blogs vont taxer de féministe le mouvement qui devient en ce moment un gros mot, aussi puissant que droit de l'homiste, altermondialiste, Khmer vert. Ce qui fait que tu aurais certainement dû commencer ta chronique par « Je ne suis pas féministe, mais... »
Ouais, pas folle. Non, pour les féministes revendiquées, la liste des injures, elle est sans fin. Hein. Bon, il faut les comprendre, hein. Ce ne sont que des femmes, donc émotives, écervelées, hystériques. En tant que femelles, des mal baisées, des salopes ou des lesbiennes. En tant que militante, je me contenterai de citer Julien Drey. À propos de sa camarade de socialiste qui était alors ministre des droits des femmes, hein, Najat Vallaud-Belkacem, je le cite, « Najat, elle est sur la ligne des féministes ultra-américaines qui sont en train d'émasculer les sexes. » Bon, je digresse là.
Hein. Oui, c'est une inconstance typiquement féminine, répondrait tout bon macho qui se respecte. Et il rajouterait certainement qu'il y a des problèmes plus importants à régler. Parce que pendant ce temps, les enfants meurent de faim en Afrique.
Oui, alors là, t'as tout à fait raison, c'est un classique. La hiérarchie des problèmes, l'élitisme dans la souffrance, qui rejoint le... Mais de toute façon, on n'a pas à se plaindre, hein, c'est quand même pire ailleurs. Hein. Et donc, selon ce principe, tu vas pas soigner ta grippe parce qu'il y a des gens qui ont un cancer. Tu remarqueras au passage que c'est souvent servi par des gens qui ne brillent pas beaucoup par leurs actions militantes. Plus prosaïquement, comment changer le monde, avec les affamés d'Afrique compris, hein, si tu laisses de côté une moitié de la population ?
Dit comme ça, ça paraît évident. Je cite, « Les hommes ne peuvent ni être, ni se proclamer libres si les femmes ne sont pas socialement, idéologiquement, politiquement, pratiquement, en tout lieu et à tout moment, leurs égales. » Cette citation vient de l'excellent ouvrage « Le féminisme pour changer la société », copublié par Attac et la Fondation Copernic chez Sileps. Donc, je vous recommande chaudement la lecture.
Oui, oui, puis c'est d'autant plus important qu'on assiste actuellement à une montée en puissance donc d'un certain intégrisme, hein, avec des mouvements anti-avortement en Europe, des délires autour d'une soi-disant théorie du genre, ou encore comme il y a eu en marge de la manif pour tous il n'y a pas très longtemps.
Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille, ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très Saint-Père a dit, faut faire des gosses, même sur repos. Ils iront vite au paradis, de toute façon ici, il n'y a pas de boulot. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Partout on crève, mais c'est une chance, et puis faut bien se faire une raison. Au moins ça limite les naissances, sans cette damnée contraception. Bien sûr les viols font une moyenne, faut se résigner, surtout rien dire. Que naissent les gosses de la haine, pourvu qu'ils soient faits sans plaisir. Oh dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. On parle de vice et de péché, et on excise des gamines, pourvu qu'il y ait frigidité. On peut pas dire que ce soit un crime, faut pas croire que ce soit de l'esclavage, puisqu'elles ont le droit de prier Dieu. Dans les liens sacrés du mariage, ça fait mal qu'elles ferment les yeux. Dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Faire des mômes, c'est pas un loisir, faut que les mères pondent sans conviction. Mais si elles peuvent pas les nourrir, c'est plus prévu par la religion. De toute façon, elles n'ont qu'à se laisser faire et se soumettre au testament. Se montrer dignes de leurs ovaires et se laisser engrosser sagement. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux, s'il te plaît, fais-moi rêver un peu.
ceux qui ont de la moralité montent des gangs, des commandos pour faire naître ceux qu'ils vont taxer. Plus tard d'être des enfants de salauds, les bien-pensants, les bonnes chrétiennes vont s'occuper de ces petites garces. Le temps qu'éclose leurs mauvaises graines, qu'on oublie après à la DAS. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ils se protègent sous leur tonsure et revendiquent leur petite calotte. Sans doute pour eux que c'est plus sûr que de nous laisser mettre des capotes. Pas la peine d'avoir son certif pour nous faire docilement gober. Satan et ses repositifs, comme tous ceux qui l'ont bien cherché. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Le seul virus qui soit bien vu, c'est l'église, c'est la religion. Fais gaffe à toi si tu l'as plu, on te pardonne mal ta guérison. Ces malades là sont sanctifiés, au ciel y a plus de phase terminale. Et martyr c'est bien mieux payé que de travailler seul à l'hôpital. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge elle avortait? Sans le paradis ce serait peut-être mieux, s'il te plaît fais-moi rêver un peu. Hey, dis monsieur, je te crois pas, t'oublies qu'aujourd'hui c'est dimanche. Jamais la Vierge n'avortera, on la fête sainte, pas faiseuse d'ange.
Eh bien, on arrive à la deuxième partie de cette émission et on va reparler, Fernand, du TAFTA ou TTIP.
Eh oui, encore.
Mais surtout à travers le TAFTA. Donc, je vous renvoie aux émissions précédentes. Hein. C'est surtout ce qu'il dit de nos démocraties actuelles et de notre démocratie en devenir. Un événement très marquant vient, hélas, de corroborer nos craintes concernant l'idée du respect des peuples que se font nos gouvernements européens.
En effet. Le jeudi 15 mai à Bruxelles, une manifestation rassemblant environ 500 personnes prévoyait l'encerclement du bâtiment où se tenait l'European Business Summit, 12e sommet de ce lobby patronal pour défendre le TAFTA auprès de députés et représentants de nos gouvernements. Le chef de file des libéraux au Parlement européen, l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, également candidat à la présidence de la Commission européenne, participait à cette réunion. On peut retrouver cet appel à manifester sur les sites de l'Alter Summit, Black Occupy, l'Alliance D19-20, Attaque.
Oui, la manifestation devait se passer dans le calme, puisqu'il s'agissait avant tout d'une protestation pacifique contre l'austérité et contre le projet de grand marché transatlantique discuté à l'European Business Summit, en l'absence donc des citoyens. Pour ce qui s'est réellement passé, on peut suivre le fil sur Indy Media Bruxelles ou sur Secours Rouge avant qu'ils se fassent embarquer à leur tour. Donc, je donne un bout de ce fil. Hein, 8h, rassemblement officiel, place Poulart. 8h23, départ de groupe pour le blocage du sommet.
8h28, premier groupe bloqué par la police au Petit Sablon. Change d'itinéraire. 9h, premières arrestations, Porte-Louise.
9h06, intervention des autopompes. 9h09, des manifestants entourent les policiers et quelques manifestants interpellés pour éviter que ceux-ci soient embarqués.
9h25, échauffourée entre policiers et manifestants. 9h40, toujours des manifestants Porte-Louise. Quelques dizaines d'arrestations, la police veut interdire les photos.
10h10, 40 autres manifestants encerclés en attente d'embarquement. Quelques dizaines d'autres à l'extérieur du Kessel. Alors le Kessel, ça veut dire chaudron en allemand. Hein. Il s'agit d'une tactique policière, piquée à l'armée, hein, visant à encercler, en renserrer tout ou partie d'une manifestation et laisser sortir les manifestants un par un, généralement après avoir contrôlé l'identité ou fait une fouille. 10h32. Déjà 3 autobus de la police remplis de manifestants arrêtés. Ils se mettent en route. Reste un groupe toujours encerclé. En attente de bus, Porte-Louise.
10h45, un nouveau contingent du groupe de manifestants encerclé Porte-Louise est préparé pour l'embarquement. Sortie du Kessel, menottage au Colson, etc.
10h50, un autre groupe de manifestants aurait été bloqué, encerclé, embarqué rue du Grand Serre, tout près du palais d'Egmont où se déroule le sommet.
Il y a eu 249 interpellations, soit la moitié des manifestants. Les autres étant restés sur la place Pollert, parmi les interpellés, 3 députés écologistes. On sait aussi que Daniel Rayet, qui représente la FSU au sein d'Attaque, a été appréhendé, menotté et retenu 1h30 sur place. Ainsi qu'Hélène Cabioche, Attaque et Tech, Annie Coupé, de Solidaire, et Nicolas Galépide, de Sud PTT.
Voilà, voici aussi le témoignage d'Émilie Pomard, hein, du comité d'adulation pour la dette du tiers-monde, c'est ADTM. Nous sommes descendus dans les rues, parce que les leaders politiques ne nous écoutent pas. Ils ne semblent écouter que les responsables du Big Business qui co-organisaient le European Business Summit. Nous avons été traités brutalement comme si nous étions de violents criminels, alors que nos actions étaient tout à fait pacifiques. Cette Europe de la violence policière, de la collusion politique, business, police, est tout le contraire de l'Europe pour laquelle milite l'Alliance des 19-20, l'Alter Summit et nos alliés européens.
De son côté, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Yvan Mayer, du PS, a précisé en début d'après-midi que la police de Bruxelles avait procédé à, je cite, « l'arrestation des personnes qui ne respectaient pas les conditions de la manifestation autorisée », fin de citation, c'est-à-dire cantonnée à la place Poulart.
Oui, ce qui fait se poser la question suivante à la Ligue des droits de l'homme belge, hein, dans un communiqué. La liberté d'expression et de manifestation va-t-elle subir le même sort que celui qui attend les réglementations protectionnelles dans le cadre des négociations du partenariat transatlantique, à savoir une élimination pour entrave au libre-échange et au sommet. L'antienne « pas d'obstacle au commerce » n'est-elle pas en train de dangereusement s'élargir à « pas d'obstacle aux idées qui fondent le commerce » ?
Et une fois n'est pas coutume, laissons le mot de la fin à notre eurodéputé vert à moustache, José Bové. 200 manifestants contre le TTIP arrêtés à Bruxelles lors d'une manifestation non violente. Dans 2 mois, il faudra en arrêter 100 000.
Un million.
Télé, on les repère à plein nez, les vieux Tintin aux cheveux teints, ou les Tristan replantés, complexés par les années. Moi je ne m'en fais plus de crâne rasé, avec mon casque nu, j'ai libéré. Jamais plus les gens me diront, tu ressembles à un mouton. Désespéré, avec la main chambier, vieux beau paniqué, à la calvitie camouflée. Quand il se voit de dos dans la glace, il perd de la foi, il se voit la face. Moi je ne m'en fais plus, le crâne rasé, avec mon casque nu, j'suis libéré, et jamais plus les gens me diront. Mais comment dire, tu ressens. Tu ressembles à un mouton. Pour ceux qui regrettent leur pilosité ou les années à la dérive, ultime tentative contre l'adversité. Pour ceux qui se refusent, ne reste que la ruse, les postiches, les perruques ou les baumes caduques. Moi je ne m'en fais plus, le crâne rasé avec mon casque nu, j'suis libéré et jamais plus les gens me diront. Mais Charlie, tu ressembles quand tu dis, mais tu ressembles à un mouton. Mais,
Mais c'est le moment de l'agenda d'attaque Pays d'Arles, en juin, donc, juin l'utile à l'agréable, comme dit l'adage. Alors, il n'y aura pas de réunion plénière le 10 juin, puisqu'elle avait été décalée au 2, puisque le 10, regardez bien dans vos agendas, donc c'est férié. Donc, la prochaine plénière d'attaque, donc notre réunion mensuelle du deuxième lundi de chaque mois, aura lieu en septembre, et pour la salle, par tradition, ce n'est pas à la Maison de la Vie Associative, c'est toujours les mêmes horaires, hein, 20h-22h, mais c'est à l'espace Van Gogh, à l'amphithéâtre.
Le 30 juin, à la Maison de la Vie Associative, nous allons projeter le documentaire de Martin Esposito, Super Trash, super film d'ailleurs, suivi d'une discussion avec Agir pour l'Accro sur la pollution du canal Centre-Cros avec les tonnes de sacs plastiques envolées depuis la décharge d'Entre-Saint, qui était chargée, elle, par les poubelles de Marseille, comme on le sait. Donc, rendez-vous lundi 30 juin, Maison de la Vie Associative, à 20h.
Super. Nous préparons actuellement aussi notre Alter 14 juillet en partenariat avec les Sud-Arles. Donc, en matinée, nous aurons la projection du documentaire The Brussels Business. On n'en sort pas, hein. Documentaire sur les institutions européennes et surtout sur le poids des lobbies. En après-midi, donc pendant les siestes des Suds, allongés sur nos gentils transats confortables, donc nous recevrons Frédéric Vial, qui est un économiste au conseil scientifique d'attaque, qui viendra nous parler du TAFTA.
Allons maintenant du côté d'Attaque France. Tout d'abord, l'Alter Village, qui se tiendra du 27 juillet au 3 août dans la Drôme, à Sayence, entre Crédéli. Je pense que le jeu de mots est involontaire.
Crédit.
Ensuite, l'université d'été d'Attaque, cette année, sera une université européenne. Elle se tiendra à Paris, à l'université Diderot, du 19 au 23 août.
Oui, à ce propos, donc, allez sur le site d'Attaque pour réserver vos places, surtout si vous voulez un hébergement, parce que, voilà, comme elle est européenne, il y aura du monde. Et maintenant, allons voir du côté de nos voisins et amis. Donc, le samedi 14 juin, le réseau Éducation sans frontières fêtera les 10 ans d'existence du RESF. Donc, il y aura une présence sur le marché le matin et le RESF vous invite à partager un repas tiré du sac, voilà, entre deux tracts et pétitions. Autre rendez-vous, le mardi 17 juin à 18h30, c'est l'Assemblée Générale Annuelle de l'Université Populaire d'Arles, donc l'UPOP Arles, et ce sera à la Maison de la Vie Associative, donc 17 juin, 18h30. Et puis un spécial copinage quand même, notre ami Hervé Thomas chantera Léo Ferré à la librairie Actes Sud le vendredi 13 juin à 18h30, c'est gratuit, venez nombreux.
Je vois que tu as un bouquin sur la table, tu dois avoir une lecture du mois à nous conseiller.
Oui, oui. Alors, ben, je vais vous conseiller la lecture du numéro 37 du magazine Linux Essentiel. Et oui. Alors, ce numéro d'avril-mai fait un gros dossier bien ficelé sur la surveillance globale du web, des mails, des SMS, donc en trois gros chapitres, comprendre, réfléchir, agir. Ce qui est important, c'est que voilà, il y a la clé du conseil et puis des petits outils simples pour protéger votre vie privée.
Passer l'été, caniculaire, dans l'enfer idyllique des bords de mer, refoulé par la foule. Au fond des criques, si j'ai pas le choix, d'accord. Mais si on l'a, je préfère encore passer l'été au Labrador à faire des loufoqueries, des folies de mon corps. Au soleil de minuit, imbibé d'aquavite, tout nu sur la banquise, entre deux inuits exquises, la chair enduite de graisse de phoque. Volant bas de chevaux, passer l'hiver en Mongolie, à traquer le yéti, piétiné par les yaks. Sans un oracle, doigts gelés, les nez qui coulent, les dents qui claquent. Y'en a que ça fait bander, mais moi personnellement je craque pour passer un hiver hyper cool, sans cagoule et sans poule. Loin des stations de ski, moi et ma petite boule on préfère
passer l'hiver au lit, blottis comme deux pivots, l'hiver au lit à l'hiver. Passer un nid, faire hyper cool, sans cagouler, sans poule, on va loin des stations de ski, moi et ma petite poule on préfère passer l'hiver au lit, blotti comme de pivot, l'hiver au lit à l'hiver. Poule, t'as un endroit. Comme de pivot, l'hiver au lit à l'hiver.
Oui, alors on arrive au moment de la devinette, mais avant de commencer cette petite devinette, donc juste un petit mot pour dire que nous avons aussi un Camino Attaque prévu. Donc pour ça, allez sur le site d'Attaque Pays d'Arles, vous aurez tous les renseignements sur comment s'y rendre, etc. Donc avec un pèlerinage pour aller à Sainte-Anne. Voilà. Maintenant la petite devinette. Qui a dit ? Proposer un salaire en dessous du SMIC s'apparente à une logique esclavagiste.
Ah ben ça alors, tu me la bailles bonne. Peut-être François, en tout cas ça peut pas être Pascal Lamy. Enfin, je donne ma langue au chat.
Oui, parce que si tu vas à gauche, je serai à droite. Si tu vas à droite, je serai à gauche. De toute façon, voilà, c'est un tweet de Laurence Parisot, eh oui, qui répondait à son ennemi intime, donc Pierre Gattaz, à propos du SMIC intermédiaire. Alors, on a bien entendu connu une présidente du MEDEF moins gauchisante, mais bon, faut quand même savoir qu'elle supporte pas Pierre Gattaz, voilà, c'est comme ça. Il lui a quand même piqué son siège au MEDEF à une voix près, donc quelque part on la comprend. Notons que Monsieur Gattaz, quand même, qui avait célébré lors de la passation du pouvoir donc les années magnifiques du mandat de sa prédécessrice, n'est pas du tout en reste, puisque il lui a répondu donc que, je cite, « Votre statut d'ancienne présidente du MEDEF et de présidente d'honneur vous impose, plus qu'à quiconque et comme à vos prédécesseurs, une obligation de réserve dans votre commentaire de l'action de notre institution. » Voilà, c'est ce qu'il estimait dans une tribune du Monde, avant de conclure que ce type de remarque, je cite toujours, se formule en bilatéral plutôt que sur les ondes. Alors comme l'ambiance est bonne, Laurence Parisot a tout de suite interprété ça comme un acte de misogynie avéré. Et je vois pas pourquoi ça s'arrêterait à eux. Alors du haut comique, donc du côté du syndicat patronal, ça crée quelques tensions. Donc je vais faire une citation d'un permanent du MEDEF. Alors j'ai pas son nom, c'est dommage. Il dit « Parisot au MEDEF, c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter. C'est un tabou absolu, on ne prononce pas son nom. »
Ambiance réjouissante. Entre les gaffes de Pierre Gattaz et les déclarations de Laurence Parisot, le MEDEF va encore défrayer la chronique à coups de petites phrases assassines. Mais il ne faudrait pas oublier pour autant que malgré ces querelles apparentes, le puissant lobby patronal marche en rang serré derrière le libre-échange. Et que notre charismatique président de la République lui prête une oreille attentive et complaisante. À tel point que l'on se demande si on ne devrait pas exiger la séparation du MEDEF et de l'État.
Oh, cool! Fernand, on va se quitter sur cette bonne parole. L'émission touchant à sa fin, donc il ne nous reste plus qu'à rappeler que cette émission sera rediffusée le jeudi 19 juin à 20h et que toutes nos émissions sont accessibles en podcast sur le site de 3DFM. La prochaine émission sera le mercredi 2 juillet peut-être, à 18h10, je ne sais pas. Vérifiez sur la grille de programme. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir Fernand.
Au revoir Sylvie, au revoir à tous.
C'était Un autre monde possible. Le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles. On se retrouve le mois prochain, le premier mercredi du mois, de 18h10 à 18h40, sur 3DFM. À bientôt.
Wahahaha. Bon, voilà. C'est bon.
Bon, c'est bon quand même.